Nzamba.
Nzambi la samirana.
Le journal avec Jean-Georges Kibogora.
Merci d'écouter la radio Nzamba à Gatakawe, c'est l'heure du journal en français, donc voici d'abord l'essentiel. Deux personnes, un père et son fils, ont trouvé la mort après avoir consommé un médicament traditionnel. Cela s'est passé ce lundi sur la colline de Kavumu, en commune et province de Muyinga. Et puis, le tribunal de grande instance de Mohamed de Bujumbura a condamné vendredi dernier l'ancien directeur général de Kira Hospital, le docteur Christophe Sahabo, à une peine de 20 ans et au paiement des amendes et dommages et intérêts colossaux pour faux et usage de faux. Maître Gustave Nyonzimakri au jugement de la honte, vous l'entendrez. Et enfin, les militaires retraités sont mécontents et réclament le paiement de 4 mois d'arriérés de leur pension. Voilà pour le sommet de ce journal-là. Nous sommes mardi 18 février 2025. Bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Bienvenue encore une fois dans ce journal-là. Deux membres d'une même famille, un homme et son fils, originaires de la colline de Kavumu, en commune et province de Muyinga, sont morts lundi après avoir consommé un médicament traditionnel. Ces informations sont confirmées par l'administrateur de la commune de Muyinga. Plus de précision avec Pierre Gang.
Ce vieil homme originaire de la colline Kavumu, en commune et province de Muyinga, est décédé lundi après avoir passé plusieurs jours malade. Son fils avait décidé de lui administrer un médicament traditionnel à base de racines d'une plante, croyant que cela soulagerait sa douleur. Cependant, après avoir pris ce remède, l'état de santé du vieillard s'est rapidement aggravé et la mort a suivi. Sous le choc, le fils n'a pas été convaincu que son père était décédé à cause des effets du médicament qu'il lui avait donné. Il a alors ingéré lui-même ce produit et a succombé à son tour quelques instants plus tard. L'administrateur communal, Amédée Misago, conseille à la population d'abandonner l'automédication et de consulter le personnel soignant en cas de maladie.
Lorsque nous sommes arrivés, nous avons retrouvé exactement deux cadavres, le père et son fils. Nous étions venus nous enquérir de la situation avec un officier de police judiciaire, le commissaire communal et un médecin. On nous a expliqué que le vieillard était malade et que son fils lui avait administré un médicament traditionnel à base de racines d'une plante dans un gobelet. L'état de santé du vieillard s'est rapidement aggravé et la mort a suivi. Son fils, qui ne comprenait pas ce qui s'était passé, est arrivé avec une limonade qu'il venait d'acheter pour son père. Il a lui-même ingéré le médicament traditionnel et a succombé à son tour quelques instants plus tard. Nous demandons à la population, en cas de maladie, de se tourner en priorité vers des médecins modernes reconnus. Et s'ils consultent un praticien de médecine traditionnelle, il est essentiel de vérifier qu'il dispose d'une autorisation légale pour administrer des traitements.
Cette autorité communale appelle également la police à renforcer le contrôle du commerce des médicaments traditionnels afin de s'assurer que les vendeurs disposent d'une autorisation en bonne et due forme.
Merci Pierre Garungu. Et dans le domaine de la justice, l'ancien Premier ministre Alain Guillaume Bougnoni doit être maintenu en prison. La décision a été prise ce lundi à Gitega par la chambre de cassation de la Cour suprême. C'était dans sa mission d'itinérance à la prison de Gitega. Cette cour a jugé non fondée les motivations du général Bougnoni qui voulait bénéficier d'une libération provisoire. Pour rappel, le général Alain Guillaume Bougnoni purge une peine à perpétuité notamment pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et tentative de coup d'État. Et le tribunal de grande instance de Moura dans la mairie de Bujumbura a requis une peine de 20 ans de prison à des dommages et intérêts de 178 millions d'euros, 8 600 $ américains et à la confiscation de tous les biens contre le docteur Christophe Sahabo, ancien directeur général de Kira Hospital. Comme infraction, le tribunal l'accuse de faux et usage de faux. Maître Gustave Nyonzima, qui suit de près le dossier, qualifie le jugement rendu de jugement de la honte qui n'a aucune base légale et juridique. Il dit que la défense va interjeter appel contre ce jugement. On l'écoute.
Le dit jugement devait être rendu le 13 janvier 2025, étant donné que le dossier avait été mis en délibéré le 13 décembre 2024. La loi exige que le jugement doit être rendu en délai 30 jours suivant le délibéré. Contre toute attente, il y a eu beaucoup de temps et tout a été dû par des velléités et mauvaise foi des spoliateurs d'Okira qui voulaient dicter la décision au juge. C'est ainsi qu'ils ont tout fait en date du 11 février 2025. À 16h, en menaçant les trois juges qu'ils puissent rendre un jugement qui condamne Dr. Christophe Sahab à 20 ans de servitude pénale sur base de l'infraction de faux et usage de faux, alors que la quelle infraction est fixée à 5 ans. En analysant ce jugement sur le plan judiciaire, l'on tire la conclusion que même un étudiant de la première candidature de l'université ne pouvait pas motiver un jugement pareil. Il n'y a pas de base légale se rapportant sur la narration des faits, pas de motivation judiciaire avec des arguments juridiques et judiciaires à l'appui, donc la base légale, et tout ceci viole de fond en comble l'esprit et la lettre de l'article 312 de la Constitution qui exige la motivation judiciaire avant tout jugement. Conformément à l'article 214 alinéa 2 de la Constitution, le juge ne tenait qu'à la loi et à la Constitution. Il était fait se fonder quand même sur la loi et rien que la loi, mais ce jugement manque de pertinence judiciaire et juridique. C'est vraiment une honte pour la magistrature burundaise. Ça dépasse l'entendement humain. Et la défense du docteur Christophe Sahab envisage d'interjeter appel dans les jours à venir pour attaquer sur tous les fronts le jugement rendu.
Inzamba.
Vers la suite de ce journal, le gouvernement burundais doit prendre des mesures rigoureuses pour protéger la population contre les forces négatives des FDLR et les éléments de Wazalendo de fuir le Burundi. C'est un appel de la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale qui se trouve dans sa déclaration rendue publique ce mardi. Et c'est au moment où un grand nombre de Congolais fuient ces derniers temps vers le Burundi. Cette coalition appelle le gouvernement burundais à mettre fin aux violences à l'égard des Banyamulenge qui sont établis au Burundi comme réfugiés depuis un certain temps, et demande également au procureur de la Cour pénale internationale à garder un œil vigilant sur la situation sécuritaire au Burundi. Écoutez plutôt Jean-Dosier Manirakiza, il est chargé de la communication au sein de la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale.
Suite à l'échec de la coalition des armées de la République démocratique du Congo, du Burundi et les miliciens face à l'avancée du mouvement congolais M23, il s'observe un afflux de réfugiés sur la frontière burundo-congolaise avec risque que les miliciens armés dont FDLR et Wazalendo se dissimulent parmi les réfugiés pour aller commettre des crimes au Burundi. Depuis la chute de Bukavu, une paix se dessine au Burundi et les jeunes de la communauté Banyamulenge font objet d'arrestations arbitraires massives dans la ville de Bujumbura. Certains parmi eux sont amenés par des agents du service de renseignement dans des endroits jusqu'ici inconnus. La coalition burundaise pour la Cour pénale internationale est préoccupée par cette situation sécuritaire de notre pays et des citoyens en général. Pour cette raison, elle appelle au gouvernement du Burundi de mettre fin aux violences à l'égard des Banyamulenge qui sont établis au Burundi comme réfugiés depuis un certain temps, au respect de leurs droits fondamentaux et à la mise en place des mesures garantissant leur sécurité et leur dignité au Burundi. Notons que le massacre de cette communauté en août 2004 sur le sol burundais reste impuni et le pays a l'obligation de les protéger de tout danger. Le Burundi doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher les forces négatives, particulièrement les FDLR et Wazalendo, de fuir vers le Burundi pour garantir la sécurité des Burundais et des étrangers vivant au Burundi. La coalition burundaise pour la Cour pénale internationale est également préoccupée par le risque des violences de masse et des perquisitions contre les minorités ethniques résidant au Burundi. Face à cette situation tendue, la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale demande aux Nations Unies, à l'Union africaine et à l'East African Community d'exiger un cessez-le-feu aux parties en conflit, de conseiller au gouvernement de la République démocratique du Congo à faire le dialogue avec M23 afin de trouver une paix durable.
Et pendant ce temps, les sections extérieures de l'association de lutte contre le génocide À ces génocides, Chilmo se tire la sonnette d'alarme par rapport aux arrestations massives dans les différentes provinces du Burundi. Les arrestations ciblent particulièrement les jeunes hommes tutsis et dénoncent également la propagation des messages de la haine de certains responsables proches du pouvoir par rapport aux derniers événements dans la région du Sud-Kivu en République démocratique du Congo. Dans une déclaration publiée ce lundi, Emmanuel Nkurunziza, secrétaire de la CGNOCIDE Chilmos au Canada, demande à la communauté internationale d'imposer des sanctions individuelles contre les responsables de ces violations des droits humains. On l'écoute.
Nous avons d'abord rappelé que la recrudescence des violences perpétrées contre les Tutsis dans l'est du Congo est venue suivant le passage de la ville de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, entre les mains dans la zone donc de l'organisation M23, et que c'est dans la foulée de cette chute de la ville qui était avant entre les mains des FRDC, mais qui est passée sous contrôle de M23, que l'on a observé cette résurgence des violences dirigées contre les Tutsis. Et nous avons également souligné que c'est suite aux défaites successives consécutives à celles de Goma, et qui ont abouti même à la chute de la ville de Bukavu, la capitale du Sud Kivu, que donc ces violences accompagnées de lynchage de Tutsis sont allées à crescendo. Sur la base donc de cette toile de fond qui est malheureusement très peu encourageante, eh bien, nous avons interpellé d'abord et surtout les Nations Unies, parce que ce sont les garants, les principaux garants du plus jamais ça, pour qu'elles remarquent d'abord qu'il y a un régime du côté ouest de la Russie, c'est-à-dire le régime en place au Burundi, qui, au lieu de protéger les populations qui fuient vers son territoire, eh bien, s'est mis à les arrêter de façon ciblée, en emprisonnant les Tutsis, Congolais et Rwandais, et surtout en enjoignant aux forces de sécurité, en collaboration avec l'administration locale, à rassembler les adresses où se trouveraient les réfugiés congolais aussi pour qu'ils les mettent dans des endroits d'emprisonnement non prévus par la loi. Ça, c'est la première des choses que nous avons soulignées. En deuxième lieu, nous avons profité de cette occasion pour dénoncer avec la dernière énergie cette persistance de ce ciblage du peuple Tutsi, montrant que d'abord, pour ce qui est de la RDC, ces pogroms anti-Tutsi ont des antécédents qui remontent à 1998, c'est-à-dire au début de la deuxième guerre du Congo, et ensuite, pour ce qui est du Burundi, que c'est la pratique presque quotidienne du régime en place entre les mains du CNDD-FTD qui dérive au Burundi de façon tout à fait indue. En même temps, nous avons profité de l'occasion pour interpeller les principales nations occidentales, s'il faut le dire ainsi, pour leur demander de faire ce qui est normalement fait en temps pareil.
Et pour clore ce journal, les lamentations sont nombreuses chez les militaires retraités. Ils disent qu'ils viennent de passer 4 mois sans obtenir leur pension. Ils demandent aux autorités habilitées de résoudre rapidement le problème pour qu'ils puissent jouir de leurs droits. On fait le point avec Pacifique Nishimana.
Ces militaires retraités disent qu'ils viennent de passer 4 mois sans obtenir leurs indemnités de fin de carrière estimées à 4 mois de salaire. Ils disent avoir de difficultés à nourrir leur famille.
Nous avons pensionné au mois d'octobre 2024. Tous ceux qui sont partis ce mois d'octobre n'ont pas encore reçu leur dû de 4 mois. Nous demandons qu'on nous donne cet argent pour le bien de nos familles. Vous savez que les autres étaient à l'école au moment où nous étions sur le champ de bataille. Nous combattions pour notre pays. Nous avons été partout, au Congo et ailleurs. Nous n'avons rien laissé dans nos familles.
Ils demandent au ministère de la Défense de régler leurs problèmes car ils ont travaillé pour la nation.
Et c'est pourquoi nous demandons au ministre de la Défense de régler le problème. Pourquoi devons-nous crier pour réclamer notre droit, qu'on nous donne notre dû de 4 mois, comme la loi le stipule? Comment est-ce que nous pouvons faire vivre nos familles? Veulent-ils qu'on aille voler alors que nous avons travaillé pour le pays?
La rédaction de la radio Nzambaga Teka Kawe a cherché Alain Tribel Mutabazi, ministre de la Défense et des anciens combattants, pour qu'il s'exprime là-dessus, mais sans succès.
Merci bien Pacifique Nishimana, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve après demain jeudi dans un nouveau rendez-vous d'information. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.